France Inter. Claire Servageant, le téléphone sonne.
Au téléphone sonne ce soir, que penser du cru 2020 du baccalauréat? Les résultats de l'examen pour les candidats ont été publiés aujourd'hui dans des conditions bien différentes des autres années. Pas de foule en liesse, entre rire et larmes devant des panneaux d'affichage, pandémie oblige, sauf à de rares endroits. Le coronavirus a d'ailleurs totalement bouleversé l'année scolaire, à tel point que le bac s'est transformé en contrôle continu avant l'heure. La réforme voulue par Jean-Michel Blanquer était prévue pour l'an prochain. Cette année, le contrôle continu s'est imposé pour des raisons sanitaires. Il a porté sur les notes de l'année avant le confinement, c'est-à-dire sur les deux premiers trimestres, à charge pour les commissions d'harmonisation d'en rectifier les résultats si nécessaire dans un esprit de bienveillance. Et c'est là que le bât blesse. Certains établissements auraient fait preuve de trop de mansuétude. Ils auraient rehaussé les notes de manière disproportionnée, ce qui aurait faussé les résultats. Je mets tout cela au conditionnel. On va en parler avec nos invités, sachant que les épreuves ne sont pas terminées. Il y a encore l'oral de rattrapage pour une partie des candidats. Mais d'ores et déjà, 91,5% d'entre eux ont été reçus. C'est un record, 13 points de plus que l'an dernier. À mes côtés pour en parler ce soir et pour répondre à toutes vos questions, Édouard Geffray, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général de l'enseignement scolaire. Sophie Vénétité, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire générale adjointe du SNES FSU. Héloïse Moreau, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente de l'UNL, l'Union nationale lycéenne. Sonia Princé, bonsoir également.
Bonsoir.
Vous êtes chargée des questions d'éducation à la rédaction de France Inter. Alors n'hésitez pas à appeler le standard qui attend vos appels. D'avance, merci à toute l'équipe du téléphone sonne. Pierre Dessertaine, Maxime Cochelin, Camille Devars, sans oublier Michel Bézikian et Clément Berman à la technique.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite un premier appel qui nous vient de Cavaillon. Non, nous n'avons plus Jean-Sébastien qui devait nous poser une question sur ce taux absolument exceptionnel, 91,5%. Édouard Geffray, on vous a bien lu. Voilà les tout derniers chiffres qui viennent d'arriver. 91,5% de reçus au premier coup, premier tour, sans, avant l'oral de rattrapage. C'est exceptionnel. Que s'est-il passé?
Ce qui s'est passé, c'est que... D'abord, 91,5%, c'est-à-dire que soit il y a 700 000 familles qui peuvent fêter le bac de leurs enfants.
C'est vrai, il ne faut pas oublier
et
ça.
Et donc il faut quand même s'en réjouir, puisque votre présentation laissait entendre qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a 700 000 familles heureuses, parce qu'il y a 700 000 jeunes qui sont heureux d'avoir le bac. Et qui l'ont mérité, parce qu'ils ont travaillé toute l'année et qu'ils ont travaillé dans des conditions particulières. Ça a été une année spéciale pour tout le monde, je crois qu'on peut le dire. Ils n'ont pas démérité, ils ont continué à travailler et à la fin, ils ont le bac et puis ils ont 40 000 camarades qui doivent passer le rattrapage et qui méritent d'être encouragés et préparés en ce sens, ce qui est le cas ce soir. Et leurs professeurs se sont mobilisés. Donc voilà, première chose, si vous me permettez, moi je partage la joie de ces jeunes. Deuxième chose, donc pourquoi 91,5% et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas plus. Donc c'est un taux effectivement qui est bien meilleur que l'année dernière. Il s'explique essentiellement en fait, il y a, si je puis dire, un jeu de vases communicants entre les candidats qui ont obtenu le bac premier tour, si je puis dire, ce soir, et ceux qui traditionnellement passent les oraux de rattrapage. C'est-à-dire normalement, on a à peu près 15% d'une cohorte qui est renvoyée aux oraux de rattrapage, et les deux tiers d'entre eux, c'est-à-dire quasiment 10%, l'ont après rattrapage. Là, il se trouve que donc ça fait un taux qui est un peu supérieur à ça, mais en fait, l'essentiel des élèves qui auraient dû passer les oraux de rattrapage a probablement obtenu le bac dès le premier tour. Alors, il y a plein d'analyses qui peuvent éventuellement différer. Moi, j'ai au moins une conviction, c'est que chaque année, une part non négligeable de ceux qui sont en rattrapage rate en fait une partie des épreuves terminales, parce que sujet qui leur va pas, parce que stress, parce que tout un tas de choses. Et cette partie-là, par définition, cet effet-là est neutralisé par le contrôle continu, mécaniquement. Donc il y a à coup sur ça, il y a peut-être d'autres choses, mais il y a à coup sur ça, et je pense que c'est quand même la principale explication ce soir, ce déport, si je puis dire, du rattrapage vers la réussite du premier coup.
Sophie Vénétité, partagez-vous la joie d'Édouard Geffray ce soir, son optimisme, et puis c'est vrai qu'on est content hein, pour tous ceux qui ont réussi, on va pas se le cacher non plus.
On va pas se le cacher, une fois n'est pas coutume, je vais effectivement rejoindre Monsieur Geffray en disant que on félicite ce soir les lycéens. Il faut pas oublier que ça a été une année particulièrement difficile pour tout le monde, pour les élèves, pour les professeurs, et que des élèves aient terminé l'année comme ça de façon positive, c'est une bonne chose. Il faut pas leur enlever le mérite qu'ils ont à avoir terminé cette année. Moi, j'ai beaucoup entendu aujourd'hui l'expression de bac au rabais. C'est une expression, à mon avis, qui ne rend pas justice à tout ce qu'ont fait les élèves cette année et le niveau de connaissances qu'ils obtiennent à la fin d'une année de terminale. Alors, ceci étant dit, on ne peut pas être d'accord sur tout, donc je ne vais pas rejoindre l'analyse sur l'effet positif du contrôle continu. Nous, il nous semble que cette augmentation du taux de réussite au baccalauréat s'explique par tout ce qui s'est joué ces dernières semaines, ces derniers jours, en dehors des jurys et dans les jurys, où il y a eu des pratiques relatives à l'évaluation, relatives à la notation, qui sont un peu sorties du cadre réglementaire, alors que pourtant, on était d'accord pour dire que le contrôle continu s'imposait pour des raisons exceptionnelles à condition d'avoir des garde-fous. Ces garde-fous, on les avait obtenus par l'intermédiaire des jurys. Jurys qui n'ont pas pu faire leur travail comme il faut parce que les informations sont arrivées très, très tardivement.
Alors, on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé au niveau des jurys tout à l'heure, mais on finit ce premier tour de table. Héloïse Moreau, vous allez forcément être contente. 91,5% du premier coup, c'est une bonne nouvelle pour les lycéens.
Effectivement, on est très content parce que effectivement c'est une grande joie quand même pour les élèves d'avoir leur baccalauréat. Après, il faut pas oublier qu'il y a d'autres enjeux quand on est en terminale à l'heure actuelle, notamment les enjeux liés à Parcoursup, et que malheureusement il reste quand même une part d'élèves qui, malgré l'obtention du baccalauréat, n'ont toujours pas d'affectation pour l'année prochaine, donc sont quand même en vacances, mais dans un certain flou sur comment va se passer leur année prochaine.
Mais enfin, c'est quand même déjà bien d'avoir ce résultat ce soir, non ?
C'est déjà bien. Oui.
C'est déjà une bonne chose. On a retrouvé Jean-Sébastien qui était au standard, qui s'était évaporé tout à l'heure. Il est revenu en direct de Cavaillon, c'est bien ça ? Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir, depuis le Champ des Cigales.
On les entend pas encore, mais je pense que ça va pas tarder. Dites-nous tout Jean-Sébastien, on vous écoute.
Ben, là, je me suis posé à peu près la question que je me posais moi, c'est-à-dire pourquoi donner le bac à 91% d'une cohorte si derrière, il y a les problèmes de Parcoursup qui vont se trouver dans des petites voies de garage en fac, et que en fait, pourquoi leur donner le bac pour qu'ils se plantent derrière
parce que, évidemment, beaucoup de bruit derrière vous, Jean-Sébastien. C'est très compliqué. Je vous remercie d'avoir appelé. Si je résume bien ce que vous venez de nous dire, pourquoi donner le bac à 91% des candidats s'il y a des problèmes ensuite au niveau de Parcoursup et puis au niveau des débouchés, et qui sous-entendez qu'ils n'auraient peut-être pas tout à fait le niveau. Je pense que j'ai résumé à peu près votre question. On en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, Sophie Vénétité, mais enfin 91,5%, ça n'empêche pas de se préoccuper de la suite, notamment de Parcoursup, et puis de se remettre au niveau après si jamais il y en a besoin peut-être.
Oui, alors d'abord, il faut voir ce qu'il y a derrière ce 91% ou 90% selon les années. C'est un chiffre qui cache en réalité de redoutables inégalités sociales. Derrière le chiffre de réussite au baccalauréat, on sait que par exemple, si 90% des enfants de cadre ont le bac, c'est seulement 40% des enfants d'ouvriers non qualifiés qui ont le bac. Donc l'école a encore tout un travail à faire pour achever cette démocratisation et permettre à tous les élèves, quel que soit leur milieu social, de réussir. Donc c'est vrai, quand moi j'entends on donne le bac à tout le monde, non, on donne pas le bac à tout le monde, et l'école a encore bien des défis à réussir pour faire réussir ces élèves-là. Après, la question de la réussite dans le supérieur, elle est effectivement cruciale. Elle a tenté d'être commencé avec Parcoursup, mais on est très loin du compte vu la façon dont fonctionne Parcoursup et les inégalités qui marquent aussi Parcoursup, ça c'est une évidence. Et encore plus dans le contexte actuel où la rentrée pour tous les élèves va être compliquée, quel que soit le niveau, il faut effectivement qu'on se préoccupe de cette rentrée et de ces élèves.
Voilà, de la suite, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Héloïse Moreau, le bac c'est une chose, mais ça résout pas tous les problèmes pour la suite. Je voudrais, avant qu'on continue, qu'on dise peut-être un mot de l'oral de rattrapage qui a lieu pour une partie des élèves. Édouard Geffray, comment ça se passe ? Ça se passe comme d'habitude. Alors pour le coup, on est revenu au système d'avant. C'est demain et après-demain, c'est ça ?
Non, c'est pas le système d'avant, c'est le système
de maintenant.
effectivement, qui est maintenu en l'état, c'est-à-dire que à partir de demain, donc du 8 au 10 juillet, les élèves pourront passer les rattrapages dans les conditions habituelles, hein, et de cette manière récupérer les points qu'éventuellement il leur manque pour espérer obtenir le baccalauréat. Et quant à Parcoursup, juste un petit mot pour dire que les équipes de Parcoursup, qui dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sont évidemment pleinement mobilisées. On a plus de 8 lycéens sur 10 qui ont déjà une proposition définitive. Et évidemment, j'allais dire, on a anticipé avec le supérieur l'augmentation potentielle du nombre d'élèves susceptibles d'avoir le bac, de manière à ce que tout le monde trouve non pas une place, mais sa juste place, la place qui lui convient à la rentrée. Donc voilà, il y aura évidemment un accompagnement individualisé pour chacun, mais ce sera bien fait.
Sonia Princesse.
Oui, donc vous expliquiez tout à l'heure que les élèves avaient peut-être bénéficié d'une certaine bienveillance, notamment dans les jurys, c'est-à-dire que des élèves qui auraient dû, en temps normal, peut-être passer les oraux de rattrapage, finalement, ont obtenu le bac ce soir. Donc il y aura sans doute, c'est ce qui explique sans doute ce taux de réussite très important avant l'oral de rattrapage. Est-ce que ça signifie que ces élèves qui vont passer les oraux de rattrapage ont beaucoup de points à rattraper? Et est-ce que ça signifie que du coup, le taux de réussite final ne sera pas très très différent des années précédentes?
Alors, je n'ai pas de statistiques pour savoir aujourd'hui quelles sont les notes des élèves qui sont en rattrapage, donc je ne pourrais pas vous répondre de manière catégorique. Deux, ça serait un bien mauvais signal à envoyer des élèves qui sont en rattrapage que de leur dire « oulala, ça se présente mal, ça va être bien compliqué ». Donc, très honnêtement, dire ça à 19h32, une veille d'oral, je me permettrais de m'inscrire en faux par rapport à ça. Donc non, ils ont leur chance. Pour certains, comme d'habitude, ça peut être plus loin que pour d'autres, puisque c'est des élèves qui ont entre 8 et 10 de moyenne, enfin entre 8 et moins de 10 de moyenne. Donc quand vous êtes à 9,5, vous n'êtes pas loin. Quand vous êtes à 8,1, vous êtes plus loin. Mais même quand on est loin, on a ses chances, on se bat, on y croit jusqu'au bout. On a des professeurs qui vous ont préparé au cours des dernières semaines parce que on savait que les moyennes étaient un peu limites.
Ils ont eu plus de temps pour se préparer que d'habitude.
Et mécaniquement, en fait, oui aussi, c'est un élément. C'est que ces élèves savaient qu'ils étaient
plus ou moins
loin.
Continu, ils ont pu anticiper.
Et donc, un certain nombre d'entre eux, évidemment, se sont mis en situation, grâce à leurs professeurs, de préparer tout ça. Tous les espoirs pour eux sont permis.
Héloïse Moreau, comment ça s'est passé justement ces derniers temps avec les enseignants, ceux qui étaient un petit peu limites, qui avaient effectivement déjà leur note de contrôle continu, qui se doutaient qu'il allait y avoir l'oral? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement? Est-ce que ça a été préparé? Comment ça s'est passé?
Alors effectivement, il y a eu un retour au lycée, alors plus ou moins flagrant en fonction des élèves, parce qu'on rappelle que quand même certains élèves ne sont pas retournés dans leur établissement depuis la sortie du confinement.
Et faut ça aussi a pu se faire à distance aussi.
Il faut aussi se rendre compte que ce qui est ressorti quand même beaucoup pendant le confinement, c'est aussi une question de décrochage, une question d'élèves qui n'ont pas réussi à suivre, que ça soit parce qu'il y avait une charge de travail qui était beaucoup trop grosse ou beaucoup trop faible pour arriver à suivre. Ce qui fait que ce qui nous inquiète surtout, c'est tous les élèves qui effectivement n'ont pas pu retourner dans les chemins de l'établissement. Après, effectivement, pour ceux qui sont retournés, on espère qu'effectivement, ils ont pu être préparés par leurs élèves, enfin, par leurs professeurs, et qu'ils réussiront le rattrapage, surtout dans une année aussi importante que celle-là, avec la jonction entre les deux réformes et effectivement toutes les questions de redoublement et de dans quelles conditions se passeront les redoublements pour les lycéens qui se retrouveraient en terminale dans un autre système de baccalauréat.
Alors ça, évidemment, on va en dire un mot. Encore une précision sur ce qui a été pris en compte pour ces résultats aujourd'hui. Ce sont les notes d'avant-confinement, c'est ça, celle du premier et du deuxième trimestre, Sophie Vénétité, du contrôle continu. Et est-ce qu'il y a eu autre chose de pris en compte par les jurys? Est-ce qu'il y a eu une question d'assiduité pendant le confinement, en télétravail? Enfin, comment ça s'est passé?
Alors, il faut distinguer plusieurs étapes. Il y avait effectivement l'idée que les notes qui étaient prises en compte, c'était les notes du premier et du deuxième trimestre et tout ce qui s'était passé avant le confinement, donc avant le 13 mars. Sauf qu'on a constaté dans les jurys et dans plusieurs jurys que parfois des notes avaient été mises pour le troisième trimestre ou que les moyennes avaient parfois pu être modifiées. C'est quelque chose qu'on a constaté et c'est quelque chose qui pose problème quand on parle notamment de contrôle continu et de travail des jurys. Ça, c'est quand même une réalité qu'on ne peut pas ignorer. améliorer. Ensuite, il y a la deuxième étape, je dirais, de la délibération, sur laquelle on a regardé, mais de manière tout à fait habituelle, les livrets scolaires des élèves pour regarder comment s'était passée l'année, regarder l'avis du conseil de classe. Et ça, comme les années précédentes, on a pu effectivement repêcher des élèves qui étaient pas loin d'avoir le bac, pas loin d'avoir une mention, pour valoriser quelque part leur investissement dans l'année. Donc il faut bien distinguer ce qui est habituel, c'est-à-dire qu'on regarde les livrets scolaires, ça on l'a toujours fait, de ce qui est très inhabituel, c'est la façon dont ces jurys d'harmonisation ont pu, ou pas d'ailleurs, faire le travail sur lequel ils étaient convoqués.
Cela dit, on vous a demandé de faire preuve de bienveillance, si j'ai bien compris. C'est la consigne qui a été donnée, Édouard Geffray.
Alors, d'abord, il y avait un cadre réglementaire, effectivement, qui était le principe qu'a rappelé Mme Vénité. Ça fait donc deux fois qu'on est d'accord ce soir, pour mon plus grand plaisir.
C'est enregistré.
Qui, effectivement, visait à ce qu'on se fonde sur les notes des premiers et deuxième trimestres et qu'on tienne compte de ce qui s'était passé au troisième trimestre quand ça jouait en faveur du candidat. C'est-à-dire que, donc typiquement, on hypothèse du repêchage. Le candidat qui avait un peu tiré la langue en début d'année, mais qui s'était, vraiment donné, entre guillemets, à fond, y compris pendant le confinement, mécaniquement, a été repêché. Après, il y a eu quelques signalements, en tout cas, nous qu'on a eu, mais je crois qu'ils sont partagés, c'est-à-dire sur les établissements qui, au moment, en fait, de proposer la moyenne des moyennes, avaient un peu tiré vers le haut. Et donc la consigne qui a été passée au jury, effectivement, dans ce type d'hypothèse, c'était de revenir aux notes du livret, puisque le livret était disponible, donc de revenir aux notes constatées par les conseils de classe, et ensuite de faire un travail d'harmonisation, ce qui effectivement est genre ce qui a été dit, un travail tout à fait banal. Chaque année, une harmonisation qui est faite, elle sert à ça, elle est faite par des professionnels. Un jury, c'est des professeurs, des inspecteurs, c'est collégial, c'est leur métier. Et actuellement, d'ailleurs, c'est souverain, c'est-à-dire que personne ne peut intervenir dans la délibération d'un jury, sauf ses membres.
Sonia Bon.
Alors, il y a eu aussi une harmonisation au niveau des lycées, entre les lycées, puisqu'on a remonté les notes en fonction des résultats au bac des trois dernières années pour les lycées d'origine. Est-ce que ça pose aussi question sur justement ce contrôle continu avec les inégalités selon l'établissement?
Il faut revenir à la situation qu'on a connue cette année. On est en situation très particulière, c'est-à-dire que du fait du Covid et du fait qu'on ne pouvait pas tenir les épreuves dans les conditions qui étaient initialement prévues, nous nous sommes fondés sur des notes qui au départ n'avaient pas été attribuées dans une logique d'examen. Quand le professeur a noté, il a noté au sens pédagogique du terme, de manière formative, comme on dit, mais il n'a pas noté pour dire c'est le bac, il ne s'est pas mis en situation bac. Et donc, pour éviter qu'il y ait des écarts, notamment parce qu'on nous avait alerté en disant « oui, mais il y a des professeurs qui sont beaucoup plus sévères dans l'année, etc. etc. » Donc, pour éviter qu'il y ait cette distorsion, on a effectivement mis à disposition des jurys les statistiques par établissement sur les trois années précédentes, de manière à ce que des établissements qui auraient été, à tort ou à raison, réputés plus exigeants ou moins exigeants, on puisse comparer et s'assurer qu'il n'y avait pas de distorsion, justement compte tenu du fait que la méthode d'évaluation au départ ne s'inscrivait pas dans le même contexte. Voilà.
On repart au standard de France Inter. Arnaud est en ligne. Bonsoir Arnaud.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir appelé France Inter. Je ne sais pas d'où vous appelez, mais peu importe. On vous accueille avec grand plaisir sur l'antenne de France Inter. Dites-nous tout.
Alors, j'appelle de Vins, à côté de Grenoble. Et ma question va concerner ma fille qui a obtenu aujourd'hui son baccalauréat en option internationale anglais et en série US avec mention bien. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que son projet d'études, c'est d'aller étudier en Angleterre, à Londres, à UCL exactement, et on lui demande pour ça d'avoir 15. Sauf que sa note qu'elle a pu découvrir aujourd'hui est de 14,95. Bon, alors ça peut être des choses qui arrivent, sauf que quand on s'est intéressé d'un peu plus près à ses notes, on s'est aperçu qu'il y avait deux matières de coefficient 9, donc c'est énorme, où elle avait une note qui était au bac, donc qui était inférieure à sa note de contrôle continu. Alors on comprend pas trop, on aimerait des explications. L'autre chose que je tiens vraiment à clarifier, c'est que c'est une élève très sérieuse, qui a des appréciations excellentes de la part de ses professeurs, qu'elle a continué à travailler de façon assidue pendant le confinement. On a contacté par téléphone certains de ses professeurs, ils comprennent pas la situation non plus. Donc voilà, on est un peu désemparés, on aimerait savoir ce qu'on peut faire.
Eh ben, vous avez raison d'appeler France Inter, Édouard Geffray, on vous soumet le cas de la fille d'Arnaud qui n'a pas 15, avec ce qui est très embêtant pour la suite de ce projet.
Alors d'abord, 14,95.
Non, mais c'est bien. Mais
bravo,
vous savez
quand même.
Comment ça se passe parfois.
Bravo, quoi qu'il arrive. Alors, j'avoue que je suis un tout petit peu surpris puisque le principe, c'est que les notes qui étaient obtenues en contrôle continu, donc la moyenne des moyennes, étaient répercutées éventuellement rehaussé s'il y avait lieu, mais en revanche pas diminué, puisque enfin voilà, donc j'avoue que je suis un tout petit peu surpris. Donc j'en déduis qu'elle a dû récupérer sa collante, c'est-à-dire qu'elle doit avoir les notes, elle a dû récupérer ses notes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une erreur matérielle, c'est-à-dire est-ce qu'éventuellement il y a eu un, auquel cas il faut peut-être se retourner vers le rectorat, je ne sais pas, mais elle est, enfin le mieux c'est probablement que ce monsieur contacte le rectorat demain pour s'assurer qu'il n'y a pas une erreur matérielle, mais en tout cas en termes de délibération, le cas de figure qui est exposé me semble un tout petit peu
surtout vu les demandes de bienveillance.
Oui non, mais c'est même indépendamment de ça. Enfin, genre, à partir du moment où elle avait une moyenne et qu'elle n'avait pas de raison de la remettre en cause, dès lors que cette moyenne était bien comptée sur les deux premiers trimestres, c'est-à-dire qu'elle n'a pas compté les notes qu'elle aurait obtenues fin juin, j'avoue ne pas, normalement la situation ne devrait pas se poser exactement en ces termes. Mais après ça, c'est une question d'affaires d'espèce et il faudrait qu'on regarde l'ensemble du dossier.
On a beaucoup de questions sur franceinter.fr et je vais vous en soumettre un certain nombre. On a notamment cette question de Jamel qui a l'air d'être professeur. Pourquoi le ministre de l'Éducation a-t-il décrété que les notes de confinement ne comptaient pas pour le bac? Sophie Unédité, vous souhaitez répondre ou laisser Edouard Geffray s'y coller?
Mais je pense qu'il défendra mieux la position du ministère que moi, mais je peux vous dire ce qu'on a constaté dans pendant le confinement. On a quand même vu des élèves qui étaient dans des situations très différentes, dans des situations matérielles très différentes, dans des situations familiales très différentes, dans des situations pédagogiques très différentes. Et à partir de là, en tout cas, nous, ce qu'on a dit, c'est que c'était compliqué de pénaliser des élèves en raison de leurs conditions matérielles de vie. Un élève qui n'a pas pu, je parle même pas de se connecter à des classes virtuelles, je parle tout simplement d'accéder régulièrement à des messages, de renvoyer des devoirs, si on comptait le fait que il n'est pas rendu un devoir ou que son devoir était moins bien fait au troisième trimestre, de fait, on le pénalisait pour quelque chose dont il n'est pas responsable.
Donc vous rejoignez la position du ministère, ça fait la troisième fois ce soir, Edouard Geffray, on a bien noté.
D'un mot, je crois que on était tous d'accord sur le sujet, une constatation, on était tous d'accord, le baccalauréat n'allait pas être le juge de paix des effets du confinement. Et donc le seul moyen d'y arriver, c'était de neutraliser la période. Voilà, tout simplement.
Héloïse Moreau.
Non mais tout à fait d'accord également.
Alors, tout le monde est d'accord, c'est parfait.
Surtout, on a eu beaucoup d'élèves qui effectivement se sont retrouvés à garder leurs frères et sœurs la journée, à les aider à faire la classe à la maison, ou tout simplement effectivement à ne pas avoir un endroit pour étudier calmement. Donc effectivement, ça semblait juste pas possible de pouvoir compter les travaux réalisés à la maison par les élèves.
Si je vous entends bien, ce soir, tous les trois, tout s'est passé pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, parce qu'effectivement, on a vécu une période très particulière, mais ce bac 2020 a été d'une certaine façon une épreuve de contrôle continu de manière anticipée, avant même l'entrée en vigueur de la réforme, là, Sophie Vénédité. Donc, quand je dis ça, là, vous êtes plus tout à fait d'accord.
Non, là, on va être moins d'accord que les choses ne se sont pas bien passées ces dernières semaines sur les jurys, l'évaluation des élèves. J'entendais tout à l'heure que si on avait constaté une distorsion entre les notes du contrôle continu et les notes de bac, la consigne aurait été de revenir aux notes de livret scolaire. Dans les jurys, soit cette consigne est arrivée très tardivement, soit elle n'est pas arrivée du tout. Et il y a quand même un point principal qui a marqué tous les collègues qui ont participé à des jurys, c'est que on a découvert quand même qu'il s'était passé des choses sur les notes, des augmentations de notes en dehors du cadre qui était prévu, si bien que on est très nombreux à être arrivés en jury la semaine dernière. On devait travailler effectivement sur les statistiques des établissements, comparer les résultats de cette année avec les résultats des trois dernières années. On est arrivé, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien à faire. Et bien souvent, les jurys ont duré 15, 30 minutes, parfois 45 minutes. Moi, dans mon jury, au bout de 25 minutes, on nous a dit « écoutez, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous ». On était quand même convoqués pour 3 jours. Donc, il s'est passé des choses qui ne sont pas normales, mais qui tiennent à la nature même de l'évaluation du baccalauréat cette année, c'est-à-dire le contrôle continu, le renvoi au local sans aucun cadre, ce qui fait qu'entre début avril et début juin, c'est-à-dire les mois pendant lesquels, les semaines qui se sont écoulées entre la décision du bac au contrôle continu et le début des délibérations, finalement, sans réelle information, chacun a essayé un peu de sauver les meubles dans son coin, de faire ce qu'il pouvait faire, parce que je rappelle quand même que les derniers textes réglementaires qui nous permettaient de savoir comment calculer certaines notes du baccalauréat sont arrivés au début du mois de juin. Donc, je pense qu'il faut quand même remettre en perspective tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, et au-delà du bilan qu'on va tirer de la session 2020, il faut tirer les leçons de cette session pour se projeter sur la session 2021 où on sait que le contrôle continu doit prendre une part importante et au regard de ce qui s'est passé, il y a des leçons à tirer rapidement.
Édouard Geffray, quelles sont ces leçons à tirer
juste avant de tirer les leçons, juste parce que voilà, enfin, je veux dire, pour une fois, on va pas être complètement d'accord, mais en termes de cadre, les notes de service relatifs au baccalauréat sont sorties le 28 mai. Les professeurs avaient jusqu'au 19 juin, enfin les établissements avaient jusqu'au 19 juin pour faire remonter les notes, et les jurés ont commencé à délibérer le 22 juin. Donc 3 semaines avant le terme pour faire remonter les notes, tout le monde avait le cadre. Donc c'est peut-être pas assez, mais enfin après ça, on est dans une période de Covid, et donc chacun a bien compris qu'on était tous pris par des délais assez courts. Mais enfin 3 semaines, je pense que pour comprendre qu'on retient les notes des 2 premiers trimestres, c'était largement suffisant, et d'ailleurs globalement ça a été compris. Ensuite, il y a peut-être eu des errements, et le rôle des juristes était de les corriger. Et quand on regarde les statistiques d'ailleurs au niveau global, académie par académie, on constate quand même la très grande homogénéité entre guillemets de la progression, ce qui prouve qu'il n'y a pas eu de distorsion non plus académique. Ce qui est un élément d'appréciation. Alors ensuite, donc sur la suite, il faut pas, je crois, comparer les deux bacs. Le bac de cette année est un bac exceptionnel, vraiment, parce que c'est un bac intégralement, sauf les épreuves anticipées sur le contrôle continu. Et deuxièmement, sur un contrôle continu qui, une fois encore au départ, n'a pas été passé dans une logique de bac. Rien à voir avec le bac 2021, qui sera fondé seulement à 40% sur le contrôle continu. Et à l'intérieur duquel, par définition, les épreuves, alors à part repartir dans un débat sur les E3C, etc., mais enfin, il y a des conditions très spécifiques de passage des épreuves d'une part, et par ailleurs, pour les 10% qui restent sur le bulletin, par définition, les professeurs, quand ils noteront, sauront que ça compte pour le bac, et donc se projetteront dans une logique de bac. Et après, moi, je fais confiance aux professeurs et pour savoir le faire. Donc voilà, je crois que les deux, objectivement, ne sont pas comparables. Après, il y a toujours des leçons à tirer. Mais simplement faire une espèce de transposition du bac 2020 sur le bac 2021, ce serait à mon avis un peu erroné.
Et de votre côté, Héloïse Moreau, vous pensez-vous que l'expérience de cette année doit amener à une réflexion particulière pour le bac 2021 qui est annoncé avec une partie de contrôle continu?
Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses cette année et même avant le confinement, il s'est passé des choses, notamment vis-à-vis des E3C. Et donc je pense qu'effectivement, il faut que sur l'année globale, on tire des leçons et pas non plus que ce qui s'est passé à partir du troisième trimestre. Après, effectivement, il y a plein de choses qui sont selon nous à voir, notamment dans la question du contrôle continu, surtout que ça serait faux de dire qu'il n'y a que 40% de contrôle continu quand les épreuves anticipées font partie de ces choses, enfin, en tout cas le français a été noté en contrôle continu pour les premières, donc une partie des 60% restants se retrouve aussi quand même un petit peu mangé par du contrôle continu, que ça soit sur le français, ou pareil, il y a des questions sur comment les élèves de première ont été notés en français, avec notamment la note d'oral basée sur du contrôle continu. Il y a des questions autour de, pareil, la spécialité qui a abandonné, sur comment elle est notée effectivement aussi sur du contrôle continu. Donc je pense qu'effectivement il y a plein de choses qu'il va falloir aménager pour l'année prochaine, et notamment aussi toute la question du retard de programme et de savoir à l'avance si jamais effectivement il y a une modification de programme pour rattraper le retard, et toutes ces questions-là qui sont aussi des questions qui peuvent fortement intéresser les élèves.
Et ben, figurez-vous que Pablo, qui est lycéen et qui nous appelle d'Avignon, a un petit peu le même genre de questions que vous. Bonsoir Pablo.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, j'aimerais poser la question au représentant du ministère, si selon lui, le contrôle continu a la même valeur dans tous les établissements et partout sur le territoire. Je vous remercie.
Merci Pablo pour cette question. Bonne question, hein, Edouard Geffray.
Oui. Vous savez, c'est... J'allais dire, enfin, si je voulais, si moi-même je posais une question, je dirais, est-ce que les étudiants qui sont en licence, en master, etc., n'obtiennent pas leur licence ou leur master parce que ils sont pas notés de la même façon sur tout le territoire. Et pourtant, personne n'a jamais remis en cause le fait qu'ils avaient une licence ou un master, et que ça s'appelait une licence ou un master, et que ça avait la valeur associée. Donc, oui, ça le permet. Après, donc clairement, enfin voilà, entre autres parce que j'allais dire tout ça repose quand même sur des professeurs, une fois encore, dont c'est le métier, qui ont une déontologie, qui ont un sens professionnel et qui savent faire leur travail. Mais pour autant, j'allais dire, il y a précisément des garde-fous qui vise aussi à empêcher d'éventuelles distorsions, parce qu'elle est toujours possible, et donc il faut s'en prémunir par nature. Et c'est pour ça qu'on a des mécanismes de type jury d'harmonisation. On a vu d'ailleurs en l'occurrence que ça avait pu être ponctuellement utile, enfin utile en général, mais déjà par rapport à des errements ponctuels. C'est aussi pour ça qu'on a fixé un certain nombre de modalités précises sur ce qu'il est d'usage d'appeler les épreuves communes de contrôle continu, qui, comme vous le savez, vont changer de nom et un peu de modalité. Mais justement, enfin voilà, on met des garde-fous, mais ensuite, en tant que tel, l'idée du contrôle continu, c'est l'idée du fait que je suis évalué progressivement en cours d'année, jalon par jalon sur ce que j'ai vu, plutôt que de tout miser sur la fin. Ça, je crois que ça a non seulement la même valeur, mais que c'est même finalement plus juste et plus favorable pour l'élève, au moins pour la partie que ça concerne dans l'ensemble des coefficients.
Sophie Vénétité, peut-être sur ce que nous disait Pablo, il y avait peut-être une inquiétude sur le caractère unitaire et national du bac qui est posé avec le contrôle continu.
C'est effectivement une inquiétude que nous on exprime très fortement. Alors là, dans le contexte assez exceptionnel du bac sous Covid, il y avait cette idée que des jurys devaient permettre de neutraliser un peu ces inégalités. Sauf que les jurys, et là je m'inscris en faux par rapport à ce qui vient d'être dit, ces jurys n'ont pas pu fonctionner correctement, puisque finalement ils ont vu arriver les notes des élèves, les dossiers des élèves qui avaient déjà été travaillés au niveau local. Donc on a bien cette pratique très locale du contrôle continu et qui creuse les inégalités entre les élèves, puisque l'élève du lycée A, là, dans la session 2020, n'a pas été évalué pour le bac de la même manière que le lycée B, et le jury n'a rien pu faire. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du bac 2021, ça fait partie des discussions qu'on a eues sur la présence de jury pour tenter d'objectiver le contrôle continu. On nous a dit oui, il y aura des jurys d'harmonisation, mais quand on a posé des questions très précises sur quelles sont les bases de travail qui vont être les leurs, comment vont-ils pouvoir travailler, on a juste eu comme réponse effectivement, ils ne pourront pas travailler comme sur la session 2020 parce que ça s'est quand même pas très bien passé, mais sans pouvoir nous donner plus de garanties sur cette objectivation du contrôle continu qui reste profondément inégalitaire.
On repart au Standard de France Inter. Samia est dans le Puy de Dôme. Bonsoir Samia.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi je vous appelle pour ma fille en fait qui a obtenu l'an dernier une bourse d'excellence pour étudier un an à l'étranger. Donc elle a été au lycée français de Munich. Les résultats du bac sont tombés au mois de mai. Elle a eu donc une mention très bien. Dans son lycée, il y a plus de 66% de mention très bien. Sauf que c'est une gamine qui a candidaté, donc qui a été encouragée par ses professeurs pour candidater en prépa dans des lycées très prestigieux. Et elle s'est retrouvée avec des refus. La seule réponse que j'ai obtenue pour l'instant, c'est le lycée du Parc qui a répondu qu'elle n'était que deuxième dans sa classe. Elle a plus de 19 de moyenne, elle a pas fait de latin, ça a été un choix en troisième pour pas obtenir forcément de...
Donc en fait Samia, si je vous entends bien, vous vous inquiétez pour la suite, vous, c'est ça?
J'ai un deuxième, voilà, elle était dans un lycée français qui était très élitiste. Je trouve que c'est inquiétant parce que je suis pas certaine qu'après le bac, des gamins qui vont candidater dans des écoles, il n'y ait pas des algorithmes qui défavorisent ces gamins...
On va essayer de vous répondre, Samia. Je suis pas sûre qu'on y arrive.
Voilà, vous dire son 19 au bac, c'est une gamine aujourd'hui qui n'attribue aucune valeur à ce 19. Je trouve que c'est dommage.
Félicitez-la quand même, Samia.
Oui, hein,
mais sur le reste, je ne pense pas qu'on va pouvoir vous répondre ce soir parce que ça concerne un petit peu la suite des événements. Merci beaucoup, Samia, de nous avoir appelé. Je voudrais, parce que l'heure tourne, qu'on prenne Frédéric qui nous appelle du Vaucluse. Bonsoir, Frédéric.
Bonsoir, madame.
Bienvenue à vous.
Oui, voilà, je vous appelle du Vaucluse, je suis moi-même enseignant d'EPS d'ailleurs. Voilà, et je voulais amener un petit éclairage sur votre discussion. Alors, dans un premier temps, il faut pas confondre le taux de réussite au bac, c'est-à-dire le nombre de personnes qui tentent le bac et qui l'obtiennent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir sur une génération combien de personnes accèdent au diplôme. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que par exemple, au niveau du bac général, par exemple, on s'aperçoit que ça a évolué entre 50 et 60%, si mes souvenirs sont bons. Et c'est INSEE, hein, voilà, je m'étais un peu renseigné là-dessus parce que j'entendais tout dire, oh le bac on le donne et tout. Mais autre chose aussi en termes de précision, c'était contrôle continu et contrôle en cours de formation. Alors là, Il faut que tout le monde sache que le contrôle en cours de formation, ce sont des épreuves qu'on va dire ponctuelles, c'est-à-dire qui sont décidées à l'avance, à telle date on passe un type d'épreuve, et qui sont qui se déroulent au cours de l'année. Par exemple, en EPS, on en a trois. On en a une au premier trimestre, une au second trimestre, une au troisième trimestre. Donc, si vous voulez, ce sont des épreuves qui étaient nationales, et qui se déroule une fois, trois fois dans l'année.
Peut-être voilà. Une petite question, Frédéric, parce que l'émission va se conclure. Non, mais je ne sais pas si vous aviez une petite question à poser à nos invités, ou c'était juste pour nous apporter un éclairage.
Non, moi c'était plus pour apporter un éclairage, et puis surtout ce que je voudrais dire pour aller plus vite.
Et je vous demande une conclusion, oui.
Une conclusion, eh ben, je vais vous la donner. En fait, moi, ce qui me choque en tant qu'enseignant, moi, j'ai 60 ans, il me reste encore 2-3 ans à faire, c'est l'utilitarisme vers lequel on va. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier ce pour quoi a été créée l'éducation nationale, pour former un citoyen qui aura un regard éclairé sur la société.
Autre débat, Frédéric. Merci de poser la question, débat. Mais c'est vrai qu'on ne va pas, à 19h56, rouvrir le débat sur la formation des citoyens. Ce serait peut-être un petit peu vaste. Il nous reste quoi, 2 minutes. J'aimerais bien qu'on arrive à conclure, Sonia Princesse.
J'avais quand même une petite question. Est-ce que sur ce, par rapport à ce taux de réussite important ce soir, est-ce que même si les conditions étaient difficiles, etc., est-ce que ça ne risque pas quand même de dévaloriser quelque part ce bac? En tout cas, c'est ce qu'on peut entendre dans certains discours. Et en tout cas, par rapport à la suite pour les élèves qui vont continuer leurs études plus tard l'année prochaine.
Moi, j'ai jamais rencontré personne à qui on ait demandé l'année de son bac. 5 ans, 10 ans ou 20 ans après, on leur demandera pas plus. Et d'ailleurs, il n'y aura pas besoin de leur demander, parce que le bac qu'ils ont eu cette année, ils l'ont eu à force de travail, et ils voulaient la même chose que celui de leur prédécesseur et la même chose que celui de leur successeur. Donc non, ce soir, tout le monde peut dormir sur ses deux oreilles sur la valeur de son bac et le fêter dignement.
Voilà, Sophie Vénédité, vous êtes d'accord sur ce point-là.
Ça va être une conclusion qui ressemble à la réponse de départ. Dire que ce bac est bradé, c'est ne pas rendre justice aux élèves qui ont travaillé toute l'année, c'est ne pas se rendre compte que ces élèves-là ont atteint un niveau de maîtrise de certaines connaissances qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Moi, je vous le dis, par exemple, en sciences économiques et sociales, on a des élèves qui dissertent sur la coordination des politiques économiques dans l'Union européenne. Donc, ce qui n'est pas des plus simples. Ce bac-là, il faut dire aux élèves que ils l'ont réussi dans un contexte difficile, et c'est ça qui doit compter ce soir et dans les prochaines années.
Et une conclusion de votre côté aussi, Héloïse Moreau?
Effectivement,
fêtons ça dignement.
On est tous d'accord qu'il faut fêter ça dignement et
se poser la question.
Chacun a la même valeur.
Et c'est vrai que ce que disait Édouard Geffray, on ne demande pas aux gens quelle année ils ont passé le bac. Il y a quand même ceux qui l'ont passé en 68 qui de temps en temps rappellent un petit peu dans quelles circonstances ça s'est passé. Mais bon, comment ça commence à dater, c'est pas tous les jours qu'on en discute avec eux. Alors on va s'arrêter là. Il y avait encore une toute dernière question. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre en une demi seconde. Comment est attribuée la note de l'oral de français pour les élèves de première de cette année?
Est attribuée sur la base du contrôle continue en commun pour l'oral et pour l'écrit, et de manière à ce qu'il n'y ait pas de distorsion, on prend la moyenne des notes orales plus écrites des années précédentes sur les 3 dernières années pour vérifier justement et faire en sorte qu'on soit pas préjudice, enfin qu'on n'ait pas de préjudice par rapport à une éventuelle bonne note à l'oral par rapport à l'écrit.
Merci beaucoup pour ces précisions, Édouard Geffray, Sophie Vénédité et Héloïse Moreau. Merci aussi à Sonia Princesse. C'est l'heure de la pub.